Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'IMO. Nous sommes le vendredi 14 mai 2021 et vous êtes peut-être en très grand week-end hein, avec ce pont qui s'annonce depuis hier, ce jeudi férié et jusqu'à dimanche, peut-être même lundi pour les plus chanceux, pourquoi pas. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure dédiée à l'information qui sera suivie d'une heure de portrait, un grand témoin, un professionnel de l'immobilier qui se révèle à notre micro. Mais on verra ça un tout petit peu plus tard puisque dans quelques minutes, nous allons nous intéresser à l'actualité et à la semaine qui s'est écoulée dans le monde de l'immobilier. Benoît Paru, le président d'Inly, nous parlera du logement intermédiaire et du modèle hein, qui ne cesse de fonctionner. Nous verrons l'essor également des villes de banlieue hein, pour après cette crise sanitaire qui a donné des envies d'ailleurs aux Français. Et puis Vincent Favreau nous parlera du divorce de Bill et de Melinda Gates. Je sais à quel point vous avez suivi cette affaire, mais alors sachez que derrière tout ça se cache un patrimoine immobilier absolument gargantuesque. On verra ça hein, pendant cette heure. Et puis à 8h, eh bien, nous vous proposerons de réécouter le portrait de Corentin Brabant, le directeur de MyImmo. Vous le retrouvez chaque mois dans Destination MyImmo, mais on va voir qui se cache derrière le directeur, hein, le grand spécialiste de l'innovation et de l'immobilier Made in France. On verra ça à 8h. Pour l'instant, place à l'info, place au MAG de l'IMO.
Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Le logement intermédiaire est un modèle hein, qui a fait preuve de résilience. Benoît Paru, président du directoire d'Inly, nous explique l'importance et l'intérêt du logement intermédiaire pour une grande majorité de Français et nous livre les grandes lignes des résultats du bilan d'activité 2020.
Bonjour Benoît.
Bonjour.
Vous êtes le président du directoire d'Inly. Alors Benoît Paru, qu'est-ce que le logement intermédiaire pour commencer ?
Le logement intermédiaire, c'est le logement des classes moyennes. Ceux qui sont déjà trop riches pour avoir le droit au logement social et qui ne sont pas suffisamment pour bien se loger dans le privé. Quand vous avez des territoires, comme par exemple Paris, vous avez un loyer au mètre carré dans le social qui va être à 7 ou 10 euros du mètre carré et que le privé est à 30 euros, ben y a plein de gens qui peuvent aller ni dans l'un ni dans l'autre. Et donc il faut créer une gamme de logements intermédiaires pour loger les jeunes actifs ou les classes moyennes. C'est le logement intermédiaire qui remplit ce rôle-là.
100% de vos logements sont en zone tendue, patrimoine essentiellement francilien. D'abord, pourquoi il est essentiellement francilien ?
Alors, Inly n'existe qu'en Île-de-France.
Très bien.
Nous avons 4 sociétés sœurs qui sont l'une à Strasbourg, l'autre à Lyon, à Nice, Marseille et à Toulouse, Montpellier, Bordeaux. Donc, 4 autres sociétés sœurs qui font le même travail que nous sur d'autres plaques territoriales tendues. Mais le territoire le plus tendu sur le plan national, c'est l'Île-de-France.
Évidemment.
C'est donc là que le groupe Action Logement investit le plus massivement pour développer le logement intermédiaire. Donc à ce jour, nous avons effectivement 43 000 logements. Ces 43 000 logements sont des logements tous situés en zone très tendue, donc le cœur de l'Île-de-France. Et pour notre développement, c'est-à-dire non pas pour les logements que nous avons déjà, mais pour ceux que nous achetons ou que nous fabriquons pour le futur, on en a un tiers en zone dite Abyss, c'est la zone extrêmement tendue de l'Île-de-France, Paris et la première couronne. Et puis vous en avez les deux tiers qui sont en zone A, qui est une zone très tendue aussi, et qui est grosso modo, on va dire, la deuxième partie, la deuxième couronne de l'Île-de-France. Donc on n'est pas au fin fond du 77, du 78 ou du 91, on reste dans les départements qui sont les plus immédiats de Paris, mais on n'est pas tout à fait en première couronne.
Malgré la crise et un contexte social compliqué, l'année 2020 a été plutôt remarquable hein, en matière justement d'objectifs, puisque vous avez même dépassé l'objectif premier. Comment vous avez réussi à garder le cap ?
En prenant des parts de marché, et puis surtout parce qu'il y a un besoin qui est identifié par les communes, parce que nous avons des propositions qui sont intéressantes pour que les promoteurs répondent à nos attentes, et puis parce que nous les développons aussi par nous-mêmes, en achetant nous-mêmes des fonciers, en construisant sur nos terrains. Donc on a pris des parts de marché, tout simplement, on avait des objectifs à 4500 logements sur l'année, on est allé à 5000 et quelques, donc effectivement on est en forte progression par rapport à nos objectifs, et surtout, quand je me replonge dans le passé, récent, en 2017, la société INLI, ou plutôt les quatre sociétés qui préexistaient avant qu'on les fusionne pour créer INLI, faisaient les quatre ensemble 1000 logements. Mmh. On est aujourd'hui à plus de 5000. En l'espace d'entre 2017 et 2020, on est passé de 1000 à 5000. On a fait x5.
La progression est
logement,
incroyable.
La production, effectivement, est très intéressante, très importante. Et les projections futures, on l'espère, ne seront pas à la même échelle parce qu'on ne fera pas x5 tous les 3 ans, mais il faut qu'on continue à progresser.
Alors justement, votre entreprise est jeune, hein, mais vos objectifs ont toujours été très ambitieux. Est-ce qu'il est toujours difficile d'imposer le logement intermédiaire dans le débat public? Si oui, pourquoi?
Alors, le produit est jeune et l'entreprise est jeune. Qu'en fait, INLI est le résultat de la fusion de 4 entreprises qui préexistaient et qui avaient 50 ans d'activité chacune. Donc on avait 4 entreprises, on les a fusionnées pour en avoir une plus importante, qui est une masse critique plus intéressante pour nous permettre de nous développer encore plus vite. Mais effectivement, on a un produit qui est jeune, logement intermédiaire, puisque ce LLI, logement locatif intermédiaire, existe depuis 2014. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau. En fait, les collectivités locales, comme les promoteurs, connaissent très bien notre grand frère. Notre grand frère, ça s'appelle le Pinel.
Oui.
Parce que c'est exactement le même produit. Ce sont les mêmes loyers, à la virgule d'euros près. Ce sont les mêmes plafonds de ressources de nos locataires, à la virgule d'euros près. La différence, c'est que le Pinel, il est porté par les investisseurs particuliers, alors que le logement locatif intermédiaire, le LLI que nous faisons, il est porté par des investisseurs entreprises. Il y en a un qui est sur l'impôt société, l'autre qui est sur l'impôt sur le revenu. Mais sinon, c'est de retrouver exactement les mêmes produits. Mmh. Et donc, globalement, tout le monde connaît le logement intermédiaire, tout le monde en pratique au quotidien. Ce qu'il faut, c'est que nous arrivions, nous, à récupérer des parts de marché pour convaincre les collectivités locales que le logement locatif intermédiaire institutionnel offre peut-être plus de garanties aux collectivités locales que celui qui fait par des particuliers.
Merci Benoît Paru d'avoir répondu
Merci
à la question. Je rappelle que vous êtes président du directoire d'INLI.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Si le télétravail se développe, les déménagements liés à son essor ne se fait pas forcément très loin de son ancienne résidence. On voit ça avec Vincent Favero.
Vous avez sûrement entendu parler de l'impact de la crise sanitaire sur les déménagements possibles des Français dans les mois à venir. Si pour le moment nous manquons d'éléments pour appuyer des faits qui existent, pourtant, une étude présentée par Meilleur Agent avec Toluna, que publient nos confrères du Figaro Immobilier, vient dresser les envies et les idées des Français sur ce rapport au télétravail et à l'immobilier. Presque un Français sur deux, par exemple, 47% des sondés exactement estiment qu'ils vont continuer à télétravailler après la crise sanitaire, sur un rythme qui se base sur 1 à 2 jours par semaine de télétravail, rythme qui ravira les patrons et semble plaire aux employés puisqu'ils le plébiscitent en majorité à 17% des sondés. Et si un actif sur 3 envisage de déménager, est en train de déménager ou a déjà déménagé, il faut rapporter de cette étude que les souhaits portent sur des biens particuliers, des maisons pour 7 personnes interrogées sur 10, mais aussi et surtout des maisons dans une zone géographique proche de leur ancien logement. Ainsi, à Paris, les habitants qui le souhaitent veulent majoritairement déménager en Île-de-France, quitte à allonger le temps de transport à 45 minutes en moyenne au lieu de 33 minutes actuellement. On a ainsi une différence avec l'idée qu'en majorité, les Parisiens voudraient déménager dans des villes moyennes en région. Enfin, vous l'avez entendu, c'est la maison qui est plébiscitée avec un budget moyen à 348 000 euros en Île-de-France. France est à 286 000 euros en région. Une étude Meilleur Agent qui repousse donc l'idée de l'exode massif vers des villes moyennes, même s'il est bien réel de façon sporadique, comme le constatent de nombreux professionnels partout en France.
Le Mac de l'Imo revient avec Promu, Crédit Advisor et Opinion System.
Allô Radio Imo, c'est vous les journalistes, c'est vous qui posez vos questions. Pour y répondre, les meilleurs experts, agents immobiliers, assureurs, avocats, comment acheter sa maison au meilleur prix? Comment négocier le prix d'un loyer avec son propriétaire? Comment ne pas se faire arnaquer par un artisan peu scrupuleux? Les experts d'Allô Radio Imo vous répondent chaque vendredi à 9h sur Radio Imo. Alors, à vendredi!
Meilleur bien. Le réseau humain, digital et équitable, constitué uniquement de conseillers immobiliers passionnés, expérimentés et motivés. Et en plus, 100% de nos agents gagnent 100% de commission sur toutes leurs ventes. Ils sont nombreux à avoir rejoint l'aventure. Alors, pourquoi pas vous ? Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
L'agence parisienne AV Hoche Immobilier a créé un parfum afin de rendre les visites de biens plus agréables et plus marquantes. Son gérant Samuel Nounès explique au micro de Bérénice Deville comment est né ce projet et ce qu'il apporte aux futurs acquéreurs.
Samuel Nounès, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes gérant de AV Hoche Immobilier, une agence située dans le 8e arrondissement à Paris.
Oui.
Et vous proposez des biens dans le 8e, 17e, 18e arrondissement. Mais aussi dans les Hauts-de-Seine ou le Val-de-Marne. Vous avez une idée très originale d'associer un parfum à l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, c'est une idée qui est née il y a un peu plus de 10 ans que maintenant on a travaillé. Pourquoi l'odorat ? Parce qu'on a vu que c'était l'un des seuls sens ou le seul sens qui est en lien direct avec notre cerveau et plus particulièrement la zone limbique. C'est la zone des émotions et de la mémoire. Les odeurs font ressurgir le souvenir, ravivent des émotions. Elles ont, je pense, une répercussion sur notre bien-être et en plus d'un visuel ou d'une ambiance sonore qu'on retrouve régulièrement dans nos agences, on a voulu se mettre sur le marketing olfactif et ça permet de créer un environnement favorable, propice à une négociation agréable avec les clients.
Donc il y a un diffuseur dans votre agence et
oui,
vous parfumez également les biens que vous faites visiter, c'est ça ?
C'est ça. Il y a un diffuseur, c'est un diffuseur au figuier qu'on a essayé de reproduire l'odeur avec nos parfumeurs. On a voulu conserver la touche sucrée, mais aussi verte et boisée. Le figuier, c'est un parfum qui apporte de la fraîcheur tout en étant discret. Ça fait penser au sud, à la Méditerranée, au soleil. Vous voyez, par exemple, on a cette odeur, cette ambiance-là à l'intérieur de nos bureaux. Et on la met aussi dans les appartements parce que, effectivement, quand un appartement sent mauvais ou quand il y a une odeur qui n'est pas agréable, on a envie de sortir, s'enfuir, de partir. Quand une odeur est agréable, je pense, inconsciemment, ça nous donne envie de rester. En fait, c'est ça, c'est que la personne puisse rester dans l'appartement, se sentir à l'aise, encore une fois, raviver ses émotions de cette odeur qu'elle a sentie. Tout simplement en hiver, hein. En hiver à Paris, les appartements sont sombres, vous diffusez un peu de figuier, vous diffusez un peu de soleil, on a l'impression que finalement il fait beau et il y a de la lumière qui rentre, puis ça devient tout de suite plus agréable. C'est sur
et
ça qu'on a voulu jouer.
Est-ce que vous notez justement un impact de ce parfum sur vos ventes en fait ? Est-ce que ça joue beaucoup ?
Alors sur ce parfum, pas encore. Enfin, on n'a pas assez de recul. C'est quelque chose qu'on a créé il y a pas très longtemps, il y a 3 mois, ce parfum-là.
Donc ça fait 3 mois que vous l'utilisez.
Ça fait 3 mois qu'on utilise celui-là. Ça fait 10 ans que je parfume des appartements pour que ça soit agréable. Mais cette odeur-là, elle a été créée il y a 3 mois et on a, à cause de la crise sanitaire, du fait que les agences ont été fermées au public, il y a eu quand même pas mal d'impossibilités d'effectuer des visites seulement pour de la résidence principale, etc., même si maintenant c'est ouvert. Mais on a eu peu de visites, donc on a peu de retours. On a peu de retours. Les seuls retours qu'on a, c'est qu'effectivement, oui, c'est agréable, ça sent bon. Est-ce que ça permet de jouer sur la vente ? Je pense que ça permet de jouer sur la vente. Je pense que c'est un élément positif. En plus, maintenant, c'est pas seulement cet élément-là qui fera vendre.
Oui, ça y contribue, mais ça ne fait pas la vente. Donc, le parfum s'appelle AV Hoche Immobilier. Vous avez créé aussi des gels hydroalcooliques à l'odeur de ce parfum.
Voilà, on a fait plusieurs dérivés, hein, donc des diffuseurs d'ambiance qu'on va aussi donner à nos clients, des solutions hydroalcooliques en gel ou en solution qu'on donne aux personnes qui viennent à l'agence ou aux clients que l'on reçoit. On distribue cette petite solution parce qu'elle a aussi l'odeur de notre parfum et on a aussi fait des belles bougies assez sympas pour remettre aux clients qui achètent chez nous, qui vendent chez nous, qui louent chez nous, au lieu de remettre un stylo ou des choses qui sont assez connues dans le métier. Voilà, on propose la bougie toujours avec la même odeur.
D'accord.
Le dosage est différent en fonction des produits parce que effectivement il faut les retravailler, mais l'odeur principale reste la même.
D'accord. Donc vos clients, qu'ils soient locataires, est-ce que vous faites de la gestion locative aussi ?
On fait de la gestion locative, oui.
Donc qu'ils soient locataires ou propriétaires ou vendeurs, enfin acheteurs ou vendeurs, repartent avec un petit flacon de gel ou une bougie du parfum AV Hoche Immobilier.
La bougie, c'est vraiment pour les clients. les clients, c'est-à-dire ceux qui sont devenus clients, locataires, vendeurs, propriétaires, bailleurs ou acheteurs. Et la solution hydroalcoolique, c'est pour tout le monde. Dès que quelqu'un franchit le pas de porte, dès qu'on passe la porte, il y a ces petits flacons qui sont là sur la banque d'accueil et souvent on demande à la personne, écoutez, vous voulez en prendre un, c'est pour vous. Un souvenir de l'agence.
Eh bien, merci beaucoup Samuel Nunes. Je rappelle que vous êtes gérant de l'agence AV Hoche Immobilier à Paris, dans le 8e arrondissement. Cette interview est à retrouver évidemment sur notre site internet, hein, radio.imo, sur notre application et sur toutes vos plateformes de podcast préférées.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Et puis le 117e congrès des notaires de France aura lieu les 23 et 24 septembre prochains. Ce sera à Nice, dans le sud de la France. Un congrès post-Covid placé sous le signe du digital, comme nous l'explique Christophe Bordet.
Le numérique, l'homme et le droit, thème de ce 117e congrès. La crise Covid a tout bousculé et les notaires ont dû s'adapter comme beaucoup d'autres professions. Plusieurs commissions en présentiel et via une plateforme digitale dédiée vont ainsi aborder des questions comme la révolution digitale et la règle de droit, les nouvelles formes de contrats dématérialisés, succession, donation, cession de fonds de commerce par exemple. Derrière tout ça, comment protéger les personnes et les biens dans un monde numérique en pleine expansion, moderniser, encadrer les contrats, valoriser et transmettre le patrimoine via le digital. Possibilité pour les participants de suivre les travaux sur son ordinateur ou via une application. Et sur place, tout est prévu avec des règles de sécurité strict, des allées larges, 3 mètres en moyenne, stand de 12 mètres carrés, pouvant accueillir 2 visiteurs simultanément. Côté environnemental, le congrès des notaires se met au vert. Objectif, zéro papier.
Le Mac de l'Imo, l'emploi dans l'Imo, Aurélie Dantez.
Il est l'heure de retrouver notre partenaire Recrutimo pour découvrir deux nouvelles annonces d'emploi parues cette semaine. Et pour cela, on retrouve Aurélie Dantez. Elle est responsable de l'acquisition de talents chez Recrutimo. Bonjour Aurélie.
Bonjour Johanna et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux annonces parmi les offres d'emploi que nous avons sur recrutimo.com. La première, Sogestra à Strasbourg recherche un ou une gestionnaire de copropriété confirmée. Rejoignez un cabinet immobilier à taille humaine dont les valeurs sont l'écoute, la bienveillance et l'humilité, dans une atmosphère participative. La deuxième, Coben Immobilier. En pleine expansion, le groupe propose de nouveaux postes de négociateurs ou de négociatrices en immobilier, avec des perspectives d'évolution. Pour être toujours plus performant, Coben Immobilier propose de nombreuses formations tout au long de l'année, afin que leurs négociateurs soient toujours au meilleur de leurs capacités.
Et vous êtes également venu, comme chaque semaine, avec un conseil pour les recruteurs et un conseil pour les candidats.
Mon conseil pour les recruteurs, il est important d'accompagner un nouveau collaborateur lors de son arrivée afin qu'il se sente en confiance et à l'aise. Il faut lui expliquer clairement les process, l'organisation de chaque service. C'est une étape cruciale. Et pour les candidats, la période d'essai est importante. Vous allez pouvoir rencontrer tous les services et comprendre l'organisation de la société. Il est primordial de prendre des notes et de poser toutes les questions. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur recrutimo.com. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Aurélie. On vous retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles annonces et de nouveaux conseils. Et en attendant, comme vous l'avez dit, direction le site www.recrutimo.com pour découvrir des milliers d'annonces d'emploi dans l'IMO.
Le Mac de l'IMO, toute l'actualité immobilière sur Radio IMO.
Tu sais, la vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien, je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi, je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon or et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans larmes. chagrin. À chaque plaie, j'aurai le médecin. Je t'offrirai mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi, pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser ma croix. De toute façon, je ne crois qu'en toi. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre compte, je t'aime à ma façon.
Et on démarre la journée avec une nouveauté, c'était Oshi et son titre « Et même après, je t'aimerai ».
Le Mac de l'Imo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
La loi climat et résilience fera baisser le nombre de logements disponibles en France et impactera un grand nombre de propriétaires qui devront être accompagnés. Christine Fumagalli, présidente du réseau Orpi, nous explique pourquoi et qui sont ces propriétaires au micro de Christophe Bordet.
Bonjour Christine Fumagalli.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venue nous voir sur Radio Immo. On est ravis de vous accueillir. Christine Fumagalli, la loi climat et résilience, adoptée par les députés la semaine dernière, le texte rejoint maintenant le Sénat. Soyons concrets et faisons un focus sur le secteur qui nous intéresse plus particulièrement. L'un des principaux volets concerne la rénovation massive des logements afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et sortir des millions de ménages de la précarité énergétique. Ça passe entre autres par l'interdiction de la mise en location des biens considérés comme des passoires énergétiques catégorie F et G d'ici 2028, dès 2025 pour les G, puis des logements classés E d'ici 2034, ainsi que le gel des loyers dans les passoires énergétiques, et ce, dès 2023. Est-ce tout simplement tenable ?
Alors, l'objectif est louable, donc c'est certain que l'immobilier a besoin d'avancer sur le sujet et de s'y mettre, je veux dire, vraiment et pour de bon, une bonne fois pour toutes. Maintenant, c'est vrai que quand on fait le calcul des logements qui sont aujourd'hui sur les classements F, G, et si on rajoute les E, c'est carrément 4,4 millions de logements qui vont être concernés, à rénover d'ici 2034, sachant que voilà, il va falloir un accompagnement très près, très serré de nos propriétaires. Une majorité de propriétaires, notamment de propriétaires en location, ne sont pas des gros bailleurs, contrairement à bien souvent les idées reçues. Ce sont très souvent des particuliers qui ont un bien, deux biens en location, qui ont des engagements financiers pour porter ces biens et qui vont se retrouver dans une situation sûrement très compliquée. Donc,
il faut le rappeler aussi, au-delà des bailleurs, les propriétaires terriens, si je puis dire, et qui ont, comme vous le dites, un ou deux logements qui sont loués, ne sont pas forcément des gens très riches. À la base, ils n'ont pas forcément de l'argent à dépenser dans des travaux à n'en plus finir.
Alors ça, c'est important de le souligner, parce qu'on fait souvent un amalgame en disant un bailleur, c'est quelqu'un effectivement qui a un CSP+, qui a des hauts revenus, et qui a une fortune, un patrimoine immobilier important. Oui, bien sûr, il y en a. Oui, il y a des foncières qui sont propriétaires d'immeubles entiers. Mais dans les portefeuilles que nous gérons chez Orpi, on est carrément à 80 ou 85% de bailleurs qui ont un bien, deux biens, qui sont plutôt des biens destinés à la retraite, pour faire un complément de revenus. Pour une transmission de patrimoine aux enfants, d'une famille qui a un ou deux enfants, on est loin de ces gros patrimoines immobiliers. Et des travaux, c'est long. Il y a un plan à faire, il y a un programme à faire. On ne peut pas s'y lancer comme ça. Et puis, on a une vraie inquiétude en matière immobilière, c'est que vouloir rénover et avoir... parce que je rappelle que l'objectif est d'arriver à la note A ou B à un moment donné de l'ensemble du parc immobilier.
Un petit peu comme l'électroménager qu'on achète aujourd'hui au supermarché.
Exactement. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment fait-on sur des biens comme on a des immeubles haussmanniens qui ont une architecture avec
des bâtiments
de France. Et en copropriété, même si on a avancé avec cette loi et qu'aujourd'hui on a un plan pluriannuel de travaux qui devient une obligation en copropriété, c'est bien. Encore une fois, on ne fait que mettre un premier pied sur la marche aujourd'hui.
Christine Fumigali, moi j'ai pris un exemple. Vous parliez de Paris, de la capitale avec le haussmannien, mais prenons l'exemple d'un territoire, la Nièvre. Dans l'état actuel des choses avec cette loi, 40% des logements principaux nivernais seraient interdits à la location d'ici 2028. Pardon, franchement, entre la construction neuve qui est toujours en retard, et ça, j'ai presque envie de dire, endémique. C'est pas nouveau en soi, même si là, avec les municipales, ces dernières années, ces derniers mois, le retard s'est amplifié. Plus des logements qui seront considérés comme insalubres parce que mal isolés, on se demande quand même où l'on va loger les Français.
Alors surtout qu'on est déjà dans des marchés où on manque d'offres, donc actuellement, sans parler de cette loi climat, on est déjà avec un déficit important, notamment dans les zones tendues, dans les métropoles, et même sur certaines zones maintenant en ville moyenne. Et c'est certain que si on interdit la location, 2025 et 2028, c'est demain.
Ben oui, c'est bien le problème quand même, c'est bien le problème. Rapidement, Christine Fumagalli, un dernier mot, le début de l'année 2021 pour Orpi, parce qu'on a envie de savoir comment ça va, puisque la plupart des grands groupes disent on n'a jamais autant vendu que sur les 4 premiers mois de cette année. Est-ce que c'est votre cas aussi?
Alors c'est le cas, bien sûr, on ne dément pas ce qui est dit. Nous sommes aujourd'hui donc fin du premier trimestre 2021 sur des chiffres qui sont supérieurs à ceux de 2019. Je ne compare pas 2020 parce que, effectivement, sur le premier trimestre, ça ne veut rien dire. 2019, je vous rappelle, était une année exceptionnelle. C'est la plus belle année qu'avait fait l'immobilier depuis très, très longtemps. Donc, nous avons des chiffres qui sont très positifs et une tendance qui se confirme avec ces villes moyennes. Je sais que vous avez un sondage qui est lancé. On le voit. Et c'est amusant parce que nous avons un sondage, nous, qui a été fait chez Orpi. Et on a le même chiffre que vous. 52% des répondants qui nous disent, effectivement, vouloir aller plutôt vers les villes moyennes. Donc 52%, c'est-à-dire que voilà, on a plus
bon, vive Poitiers,
la client sur deux. Voilà.
Hein, voilà, vive Poitiers, vive Limoges,
vive Toulouse,
vive Toulouse.
Voilà, vive La Rochelle, vive les villes moyennes, vive Le Havre.
Bon, eh bien écoutez, on va aller habiter là-bas.
Avec plaisir.
Quand vous voulez. On s'y retrouve.
Chiche.
Merci en tout cas. Merci beaucoup Christine Fumagalli, présidente d'Orpi, d'avoir été avec nous sur Radio Immo.
Le Mac de l'Immo.
Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates et Melinda Gates, sa femme, ont annoncé leur divorce. Une actualité qui place le patrimoine immobilier du couple au premier plan, comme nous l'explique Vincent Favero.
C'est le divorce de l'année. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, et sa femme Melinda Gates, personnalité bien connue dans l'entreprise puisqu'elle a été l'une des cadres de Microsoft pendant des années, ils viennent d'annoncer leur séparation après 27 ans de mariage. Et si cette histoire prend fin, c'est une nouvelle qui fait parler la planète entière. Comment le couple va se partager la fortune mais aussi le patrimoine immobilier acquis depuis de nombreuses années. Premier bien très observé, la maison de Bill et Melinda, un charmant pied-à-terre situé au nord-ouest du pays, dans l'état de Washington aux États-Unis. Accrochez-vous, la maison est une construction sur mesure sur 4 niveaux de 4400 m² avec une partie appartement privé de 1000 m², une partie réception également. Le manoir possède aussi une bibliothèque de près de 200 m² ainsi qu'une salle de trampoline avec 6 mètres sous plafond, c'est bien normal. Un bien à 131 millions de dollars selon le fisc local. En Californie, le couple possède aussi un ranch, c'est la passion d'une des filles de Bill et Melinda Gates. Un ranch de 18 millions de dollars, beaucoup plus modeste donc. À l'intérieur, on peut se retrouver autour d'un hippodrome, mais le centre accueille aussi un vétérinaire, des écuries et 5 granges. En Floride, le couple a aussi acheté un autre ranch, racheté en 2014 2013 pour 8,7 millions de dollars. Bill Gates possède aussi un certain nombre d'hôtels à travers les États-Unis d'Amérique, hôtels chics et chers dans les meilleurs quartiers des grandes villes. Il gère ses activités hôtelières via une société qui sent bon la liberté et la nature, Cascade. Enfin, l'ex-patron de Microsoft est aussi un homme de la terre, un homme simple. Il possède ainsi près de 97 934 hectares de terres agricoles, ce qui en fait le plus grand propriétaire privé de terres agricoles aux USA. Aujourd'hui, ce patrimoine va donc être observé de près pour son attache à Bill et Melinda Gates après donc ce divorce. Un divorce emblématique qui rappelle un autre il y a quelques années, celui de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, avec son ex-femme Mackenzie Tuttle. Une histoire là aussi de maison où la surface du jardin se compte en dizaines d'hectares.
Le Mac de Limo revient avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
ThyssenKrupp Elevator et maintenant TK Elevator, entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagés dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive Max. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator, move beyond. www.tkelevator.fr.
Bonjour, c'est Philippe Boyer. Retrouvez-moi chaque mois dans Complètement à l'Ouest. Économie, art, sciences, gastronomie. Des invités prestigieux analysent le monde qui nous entoure et décryptent notre société. Bref, ils nous parlent de tout, sauf d'immobilier. Rendez-vous mardi à 19h sur Radio Immo. Alors, prêt à mettre le cap à l'Ouest ?
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Les promoteurs aussi peuvent avoir besoin de financement et dans ce cas, il y a des entreprises comme Entrepreneur Invest pour leur venir en aide. Mais attention, pour être financés, les projets doivent répondre à quelques critères. Lesquels ? Réponse avec Mickaël Soussan et Meyer Moriousef, responsable de l'immobilier chez Entrepreneur Invest.
Le Mac de l'Immo.
Nous allons parler investissement avec mes deux invités. Mickaël Soussan, bonjour.
Bonjour, Johanna.
Vous êtes venu aux côtés de Meyer Moriousef. Bonjour, Meyer.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux, vous représentez, vous fondez l'équipe investissement d'Entrepreneur Invest. Alors, avant de démarrer, qu'est-ce qu'on fait chez Entrepreneur Invest ?
Alors, Entrepreneur Invest est une société de gestion qui a été créée en 2000 par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Depuis, donc, nous avons financé près de 200 participations, 200 sociétés. Nous sommes actifs à la fois au niveau du financement des PME, mais également au niveau du financement des promoteurs immobiliers, notamment depuis un an et demi. Et puis, donc, nous avons à peu près levé plus de 1,3 milliard depuis l'origine. Et nous sommes un des trois premiers investisseurs en France sur les PME.
Vos clients, vous nous l'avez dit, il y a des PME, il y a des promoteurs, donc on est assez large au niveau du panel ?
Absolument, on est assez large. Alors les PME, c'était essentiellement des PME dans le domaine de la tech, donc ce soit dans tout ce qui est MarTech, FoodTech, PropTech, on est très actifs dans ces domaines-là. Et puis dans l'immobilier, effectivement, on regarde des promoteurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc on finance ces promoteurs, on vient les accompagner sur des opérations de promotion immobilière ou des opérations de marchand de biens.
Le secteur de l'immobilier est demandeur d'entreprises comme la vôtre ?
Alors, oui, Johanna, le secteur de l'immobilier en fait est très demandeur. C'est initialement nos premiers partenaires, des PropTech, des cabinets d'architectes, qui nous ont poussés à aller sur ce secteur pour financer leurs clients, parce qu'ils ont compris la pertinence de notre fonds de capital développement. On accélère la croissance des entrepreneurs et donc on a décidé d'accélérer la croissance des professionnels de l'immobilier aujourd'hui. Donc on sait les accompagner sur le financement des projets, mais également quand on se connaît un peu plus sur le financement de leur société.
Qu'est-ce que c'est comme genre de projet ? Vous pouvez nous donner quelques exemples concrets ?
Typiquement, un promoteur qui veut construire du résidentiel. Donc nous, on est essentiellement axé sur le résidentiel. On ne fait pas trop de commercial ni de tertiaire. On finance essentiellement des opérations sur le résidentiel parce qu'il y a un vrai besoin en France ou en Europe de logement. Et du coup, les promoteurs qui sont confrontés à un problème de financement par rapport aux banques qui financent de moins en moins à cause des problèmes réglementaires qu'elles-mêmes ont au niveau des ratios de liquidité. Par conséquent, Entrepreneur Invest vient justement en complément des banques, souvent ou parfois même seul sur des opérations qu'on finance. Et donc, on joue un rôle assez important au niveau de ces promoteurs qui se tournent de plus en plus vers nous pour financer leurs opérations.
C'est bien parce que là, on tue un peu l'idée reçue du promoteur qui a beaucoup d'argent et puis qui finance comme ça à tour de bras.
Alors, le promoteur qui a beaucoup d'argent, il y en a effectivement et tant mieux. Je pense que les belles années de la promotion immobilière, il y en a eu et il y en aura encore. Malgré tout, tous les promoteurs sont contents de recevoir du financement et d'aller plus vite dans leur projet. Donc, ça peut leur servir d'aller plus vite, mais ça peut également leur permettre de se développer s'ils n'ont pas justement des capitaux propres pour se développer. Et je pense que Michael, là-dessus, a une meilleure idée.
Alors, effectivement...
Mais peu plus près du micro.
Alors, effectivement, mais on n'est pas seulement un investisseur, on est un investisseur accompagnateur. C'est-à-dire qu'on est un fonds de private equity implanté depuis plus de 20 ans sur la place. Et donc, nous, ce n'est pas seulement mettre de l'argent. En fait, on fait bénéficier à nos partenaires d'un écosystème. On peut les mettre en relation, par exemple, avec des personnes de notre écosystème. Je pense à l'une de nos participations qui s'appelle Quality et qui fait de la gestion de projets pour notamment les promoteurs immobiliers. Ils ont entre 300 et 400 clients quand même dans le secteur. On peut les mettre avec des cabinets d'architectes et également avec des gens qui peuvent les aider sur le pilotage aussi bien financier que marketing. Donc nous, la digitalisation et toutes ces problématiques qui ont beaucoup émergé avec l'arrivée du Covid, c'est déjà des choses sur lesquelles on était partie prenante depuis des années. Et donc, on peut accélérer leur croissance à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement de l'argent, Entrepreneur Invest, c'est un partenaire qui vient donner un coup de pouce à différents niveaux.
Et ça, c'est pour tous vos clients ?
Oui, absolument. À partir du moment où le client nous demande d'être accompagné, il nous demande de l'aide, bien entendu, on lui fait bénéficier de tout notre écosystème, de tout notre réseau, que ce soit au niveau des juristes, que ce soit au niveau des ressources humaines, que ce soit voilà, à tous les niveaux, on les aide. En général, on a quand même affaire à des promoteurs qui savent faire. Après, une aide est toujours bienvenue, des conseils sont toujours bienvenus. Et puis voilà, on a l'habitude de travailler avec eux comme ça. Ils apprécient beaucoup ce qu'on fait, contrairement à certains qui vont se financer sur des plateformes, par exemple. Là, il y a un vrai accompagnement. Donc, on est vraiment derrière et on regarde ce qu'ils font et on essaye de les accompagner au maximum.
Merci Michael Soussan, merci à vous également Meyer Mor-Youssef de nous avoir parlé ce matin, de nous avoir présenté Entrepreneur Invest. Si on veut en savoir plus, direction le site internet.
Absolument.
On va mettre le lien dans la description du podcast. Merci à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui sur Radio Immo.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Le groupe Arches et Century 21 ont annoncé un accord pour le rachat de ce dernier. Le montant n'avait pas encore été dévoilé. C'est désormais chose faite. On estime la transaction à 84 millions d'euros, comme l'explique Vincent Favéron.
C'est l'actualité du secteur de l'immobilier qui fait la une en ce mois de mai 2021. Si le bruit courait depuis quelques semaines, c'est désormais officiel. Nexity a annoncé que le groupe Arches allait racheter Century 21 pour un montant de 84 millions d'euros. Une transaction qui interviendra fin mai 2021. Le groupe Arches possède aujourd'hui de nombreux réseaux comme les groupes La Forêt et Guy Hoquet Immobilier, mais aussi Citia Immobilier. Laurent Vimont, le président de Century 21, précise dans les colonnes du journal de l'agence que Nexity, propriétaire du groupe jusqu'ici, a été un partenaire important et un actionnaire précieux. Le président qui se veut rassurant, pas de changement à la tête du groupe, un rachat par un groupe français qui reste axé sur le développement. Nous allons faire comme avant, mais en mieux, ce sont les mots de Laurent Vimont. Une négociation qui porte donc sur la tête de réseau et non sur les franchisés, précise encore le président. Les franchisés restent donc des chefs d'entreprise indépendants. Century 21 regroupe aujourd'hui 915 agences et cabinets en France, plus de 7200 collaborateurs. Le groupe bénéficie d'une présence numérique importante, également 45 000 biens proposés à la vente et à la location sur son site. Pour le groupe Arches, c'est une belle prise qui va venir augmenter le capital du groupe. Il représentera ainsi plus de 18 000 collaborateurs, un poids lourd de l'immobilier français.
Le Mac de l'Immo, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo. It's beautiful, it's bittersweet, you're like a broken home to me. I take a shot of memories in black, I like an empty street. I fill my days with the way you walk and fill my nights with broken dreams. I make up lies inside my head like one day.
Situation's beneficial, doing something different, got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you're dreaming, lucid, prove it. If you made a promise, then keep it. Why you wanna lie and then get mad? I don't believe it. But really, I was doing just fine without you. Looking fine, sipping wine, dancing, no club couches. Baby, why you wanna lose me like you don't need me? Like I don't block you and you still try to reach me. How you figure out how to call me from the TV? You running out of chances and this time I mean it.
Et encore une nouveauté, mais cette fois en anglais, c'était Maroon 5 avec Beautiful Mistakes.
Le Mac de l'Immo, permis de démolir, Robin Rivaton.
Et comme chaque semaine, on retrouve l'édito de Robin Rivaton qui jette un œil sans complaisance au monde de l'immobilier.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Permis de démolir, l'édito qui met fin aux fausses idées sur l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe outre-Atlantique. Je ne suis pas sûr que nous saisissons bien la révolution copernicienne qui est en cours, menée par le gouvernement de Joe Biden. Qui aurait cru que le président américain le plus âgé de l'histoire, de toute l'histoire des présidents de ce pays, allait déclencher une véritable révolution. La révolution, elle est à trois égards. Dans le premier, on a une plan d'infrastructure qui a été absolument gigantesque. On parle de 2 trillions, donc 2 000 milliards investis dans les infrastructures, infrastructures physiques mais aussi digitales. Nous y reviendrons. Dans un deuxième point, il y a une augmentation de la fiscalité sur les entreprises et sur les personnes les plus aisées dans le pays. Et sur un troisième point, il y a un investissement dans l'immatériel, notamment l'éducation, qui va être annoncé prochainement. Ces trois facteurs, vous me direz quel est le rapport avec l'immobilier, et bien vous allez le voir très rapidement. Le premier, c'est que le plan d'infrastructure vise à augmenter considérablement la production de logements et d'infrastructures physiques qui doivent permettre de desservir ces logements, notamment des trains, des métros, des trains régionaux qui doivent permettre de désenclaver un certain nombre de villes. Et donc, il y a un effort absolument gigantesque qui est mis sur la production de logements à un moment où le pays connaît une très grave crise du logement. Le second point sur la fiscalité de l'immobilier, elle est aussi concernée par ce qui est en train de se passer du côté des États-Unis et par cette révolution fiscale. Aujourd'hui, l'immobilier est considérablement détaxé aux États-Unis, notamment dans le cadre de l'héritage. La transformation ou la proposition de Joe Biden va faire en sorte que la fiscalité va être beaucoup, beaucoup plus lourde sur les biens immobiliers qui seront transmis aux héritiers, notamment aux héritiers les plus aisés. Et ça, c'est une révolution dans ce pays. Et donc, on voit que l'immobilier, qui même s'il n'est pas ciblé directement par les politiques de Joe Biden, va être considérablement impacté. Et c'est une réponse qui devient de plus en plus pressante, tout simplement parce que les prix de l'immobilier aux États-Unis sont en augmentation folle. Ils sont totalement hors de contrôle, disent certains. On est sur des augmentations qui dépassent parfois 10-15% par an dans certaines villes du Midwest, hein, ces villes du milieu du pays qui sont en train de subir à une très forte arrivée de population. Et donc, ça pose d'énormes problèmes d'inégalité, ça pose énormes problèmes d'accès au logement. Et donc, face à une population qui commence à grogner de plus en plus sévèrement sur les conditions d'accès au logement, le plan Biden permet d'y répondre avec une augmentation de la production et aussi une augmentation de la fiscalité.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Oubliez la Silicon Valley, bienvenue à la Cambrai Valley, e-Valley plus précisément, un site logistique géant dans les Hauts-de-France, sur les 320 hectares de l'ancienne base militaire de Cambrai. Près de 750 000 m² d'entrepôts vont pousser et seront occupés par plusieurs entreprises. Le site militaire revit avec e-Valley, ce parc de logistique dédié au e-commerce qu'a visité pour nous Elodie Rabel.
Toute cette marchandise, elle arrive ici, donc on va la contrôler, la vérifier et la mettre en stock à partir du moment où elle aura été confirmée, validée.
Ici, à e-Valley, le plus gros centre logistique d'Europe, qui se veut aussi le centre logistique du futur, son créateur, David Taïeb.
Des bâtiments logistiques, il y en a dans toute la France, mais le but, c'est de faire de la logistique avec du service et service à outrance. Tous les services que peut avoir besoin une entreprise, nous voulons les trouver sur ce site de e-Valley.
Et parmi les entreprises déjà présentes sur le site, il y a Siloc, entreprise spécialisée dans la mode, son directeur du développement, Bertrand Chabrier, et ses
Nous avons choisi de nous installer sur ce magnifique site d'e-Valley parce que nous étions déjà dans la région avant, mais nous avions besoin de place parce que en fait, nous nous développons, nous sommes comme beaucoup d'entreprises de logistique en pleine forme, nous nous développons grâce au e-commerce, grâce à des nouvelles acquisitions aussi de partenariats et de marques. Et donc, voilà, ici, c'était le site idéal pour nous.
Autre avantage d'e-Valley, son positionnement stratégique. Au croisement de l'A2 et de l'A26 et en 2028, relié au canal Seine-Nord Europe, en clair, il y aura des livraisons par fret, transport fluvial et aérien. Un dynamisme synonyme d'emploi, on en promet 1300. Et ça, ça ravit le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand.
C'est une base aérienne qui a fermé, plus d'activité. Et là, aujourd'hui, on retrouve des emplois, ce ne sont plus des soldats. Mais ce sont des salariés, parce que la logistique, c'est aussi un secteur d'avenir.
Et l'avenir, ce sera peut-être avec des livraisons par drone. e-Valley mène des tests avec Airbus.
Le Mac de l'Immo revient avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
I've been messed up all day, been talking to myself a lot, but I'm trying to embrace just teetering on self-destruct. I'm sorry if the music's too loud for us to talk, but when it turns to silence, I'll be left there with my thoughts. I hope this doesn't turn you off. Still I need some comfort here, not looking for your sympathy. Just help me not to disappear. And so I made the music too loud for us to talk. Cause when it turns to silence, I'll be left there with my thoughts. Cause I need something, well, I need someone. My heart is running on fumes. Can't take another minute in this room. If I needed somewhere,
where would I go when I need perspective and the darkness seems relentless? I've been talking to myself. I've been talking to myself. Sure, you never meant to be so cruel. You lit a fire under my feet. Self-medicate to hide the truth. And that always brings out the beat. And so I made the music to allow for us to talk. So when it turns to silence, I'll be left here with my thoughts. I need something. I need someone. My heart is running on fumes. Can't take another minute in this room. If I need air somewhere, where would I go when I need perspective and the darkness seems relentless? I've been talking to myself.
Écoutez, Rag & Bone Man, c'était Talking to Myself.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Et ce matin, je vous propose d'écouter ou de réécouter le portrait que nous avions consacré à Corentin Brabant, le directeur de Maïmo. Maïmo, hein, c'est l'incubateur de start-up made in Sergic, installé dans les Hauts-de-France, à Roubaix précisément, où nous nous retrouvons chaque mois avec Corentin Brabant. Mais alors, qui est cet homme, hein, passionné d'innovation et d'immobilier? Vous allez pouvoir le découvrir dans quelques instants, juste avant le Flash Info. Et puis, après le portrait de Corentin, ce sera à l'Oradio Immo, comme chaque semaine, de 9h à 9h30 à 11h, la semaine copro de Gilles Frémont, et puis la suite de vos programmes sur Radio Immo. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end.
Le Mac de l'Immo revient avec Promu, Crédit Advisor et Opinion System.